Session de l'Église Sacrement du Salut par le Père Jean-Marie, le 27 octobre 95, premier cours.
Alors, on va ensemble travailler l'Église, on va réfléchir sur l'Église. Alors, rapidement, vous dire ce qu'on va faire. On va, dans un premier temps, réfléchir à ce que représente l'Église comme question théologique. Donc vous verrez, c'est un petit peu complexe. Je ferai un peu le tour d'horizon de la question théologique autour de l'Église à travers la différente manière de recevoir l'Église et les différents modèles dans lesquels on conçoit l'Église aujourd'hui. Alors ça, ce sera en guise d'introduction. Après, rapidement, je regarderai comment dans l'Écriture se pose le problème du peuple de Dieu, principalement à travers l'Ancien Testament. Le Père Philippe regardera, lui, le Nouveau Testament. Et puis, après, j'essaierai de vous montrer comment la problématique de l'Église se pose au Concile Vatican II à travers l'encyclique Lumen Gentium. Donc voilà un petit peu ce que j'espère faire si j'en ai le temps. Alors, il faut savoir qu'il y a des petits changements d'horaire. Alors, on a deux conférences ce matin, on en a une et on en a deux cet après-midi. Les questions-réponses sont reportées à ce soir. Donc ce soir, les questions-réponses, il n'y aura pas de conférence. Et il y aura deux conférences cet après-midi, donc à 15h30 et à 16h30. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des choses systématiques et logiques, là je suis désolé, ils vont être assez déçus, dans le sens où de fait on ne peut pas systématiser l'Église et on n'a pas traité logique de l'Église. Et ça c'est sûrement une des grandes difficultés parce que souvent l'approche théologique de l'Église est une approche dite phénoménologique. Autrement dit, on a énormément de mal à structurer une pensée de l'Église. Il est très rare de voir un traité de l'Église. Si vous connaissez un petit peu la théologie, vous voyez dans l'Écriture, il n'y a pas de traité de l'Église. Vous regardez chez saint Thomas, il n'y a pas de traité de l'Église. Chez les auteurs médiévaux, il n'y a pas de traité de l'Église. On voit un petit peu des traités de l'Église au XVIIe, XVIIIe siècle, mais ces traités de l'Église, c'est surtout des traités juridiques, des questions de canonicité. Et puis, aujourd'hui, on voit quelques réflexions sur l'Église, mais on a très peu de réflexions ordonnées qui soient un petit peu unifiées. Alors, le premier problème, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une réflexion unifiée et ordonnée sur l'Église? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, en Dieu, l'Église est infiniment simple. Dans sa réalisation, elle se réalise dans une communauté humaine. Et la communauté humaine, elle est toujours complexe. Donc, on ne peut l'aborder que sous certains angles qui vont nous manifester, en même temps, la pluralité de l'Église, et dans cette pluralité, sa richesse. Et c'est pour cela que dans l'Écriture, on voit différentes images de l'Église. Alors, les grandes images, c'est la première qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Cette alliance est une alliance sponsale. Et puis, vous avez une autre image, c'est l'image du corps. Souvenez-vous, 1 Corinthiens. C'est l'image de la vigne. C'est l'image du temple. C'est l'image du royaume. Et la multiplicité de ces images sont là pour nous renvoyer à une réalité qu'on appelle l'Église. Et de fait, je ne peux pas dire l'Église, c'est la vigne, l'Église, c'est le royaume, l'Église, c'est l'alliance sponsale, l'Église, c'est le temple ou le corps, mais je suis invité à regarder de chacun ces éléments pour comprendre ce qu'est le mystère de l'Église. Donc vous voyez, on a immédiatement une démarche qui est tout autre, c'est une démarche qui s'appuie d'une certaine façon sur des analogies. Et à travers ces analogies, on va découvrir quelle est la richesse du mystère de l'Église. Alors, vous voyez, ça, le Père Philippe le fera, hein, développera toutes ces grandes analogies. C'est ce que le Concile Vatican II appelle dans Lumen Gentium les images qui préfigurent le mystère de l'Église ou les images qui annoncent, qui réalisent le mystère de l'Église. Ça, le Père Philippe le développera. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment, aujourd'hui, est appréhendée l'Église. Et là, on ne peut pas mettre entre parenthèses le pluralisme. Vous voyez, de fait, on est, au point de vue théologique, il y a un pluralisme très très important sur la façon de regarder l'Église. Soit on va la regarder dans un regard sociologique, on va la regarder dans une conception politique, une conception juridique, une conception mystique ou spirituelle. Donc vous voyez, c'est important de voir que ce pluralisme, il existe. C'est comment peut-on un petit peu élaguer tout ça pour avoir une certaine intelligence du mystère de l'Église. Alors, ça va être le but de mon introduction. Avant cela, je voudrais, pour ceux qui ont des loisirs et ceux qui aiment lire, je voudrais vous souligner quelques ouvrages qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est un ouvrage du père de Lubac, qui s'appelle « Méditation sur l'Église ». Vous l'entendrez au réfectoire à midi. C'est sûrement un des ouvrages qui a le plus influencé le Concile sur son regard dans l'Lumen Gentium. Donc c'est un ouvrage intéressant, c'est en même temps un ouvrage qui n'est pas trop théologique, je dis pas trop, qu'il est quand même pas mal, mais pas trop, et qui est assez méditatif, donc en même temps, qui peut être assez intéressant pour chacun d'entre vous. Il y a d'autres ouvrages, alors là c'est un peu plus pour les spécialistes, hein, vous avez le père Congar, qui a beaucoup écrit sur l'Église, et le cardinal Journet. Donc sachez au moins ces noms. Et si vous voulez en connaître d'autres, pour ceux qui sont vraiment spécialistes, donc pour les frères qui font des études, sachez qu'il y a un regard très intéressant sur l'Église dans ce qu'on appelle l'école de Tübingen, par un Allemand qui s'appelle Müller. Donc sachez ça, ça fait bien de le dire et de le citer, comme ça vous saurez que ça existe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, la première chose, c'est d'essayer de montrer comment, dans l'Église, on a souvent des regards contradictoires sur l'Église. Et après cette introduction, il y aura une double nécessité, c'est de comprendre comment on peut redécouvrir le mystère de l'Église à l'origine de notre foi, à la source de la foi. Autrement dit, dans l'Écriture et dans la tradition. Alors ça, on le fera ensemble. Et il y a toute une réflexion aussi. Alors si j'ai le temps, je l'amorcerai. Sinon, je pense que le père Philippe aussi en parlera. C'est une réflexion sur ce qu'est la communauté humaine. Donc un peu une petite réflexion sur ce qu'on appelle la philosophie politique pour comprendre un peu le mystère de l'Église. Alors, première chose, je voudrais vous présenter quatre modèles par lesquels on parle de l'Église. Alors le premier, c'est le modèle le plus simple. Le plus courant, je vais l'appeler, il y a un modèle pyramidal, excusez-moi. Autrement dit, vous avez l'Église, c'est quoi? C'est le Christ, les apôtres, le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles. Et cette notion, ce qui est très important, c'est qu'elle est constante. Elle est constante dans la pensée sur l'Église. On la trouve partout, cette notion. Et on la trouve surtout sur le terrain concret de l'Église. Et alors, est-ce que cette réflexion, vraiment, est-ce qu'elle est vraiment juste? Est-ce qu'on peut dire que l'Église, c'est, dans un ordre décroissant, le Christ, les apôtres, le pape, les évêques, les prêtres, les fidèles? Alors, oui, la première limite d'une telle vision, c'est de considérer l'Église comme un groupe humain à part entière, sans originalité particulière. Autrement dit, on a un fondateur, et dans ces fondateurs, on a des successeurs. Le fondateur, c'est le Christ, le successeur, c'est Pierre, les apôtres, le successeur, c'est c'est l'évêque d'Autun, c'est l'évêque de Moulins, l'évêque de Paris, de Lyon. Et puis, ce sont les prêtres qui sont là, puis ce sont les laïcs, parce qu'ils ont un petit plus, du moins les religieux, ils ont un petit plus. Et puis après, les laïcs, alors là, c'est le truc lambda, c'est... Bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient au terme, alors bon, ben vous êtes au terme, et vous êtes, pour ceux qui sont laïcs, voilà, le terme lambda de l'Église. Et on voit bien que ce regard, c'est un regard purement humain. Et on oublie une chose, alors là, qui interviendra d'une façon très précise dans la constitution Lumen Gentium, on oublie que l'Église, c'est d'abord un mystère. On oublie d'abord que l'Église, elle tire son origine du mystère de la très sainte Trinité. Alors, j'espère qu'on aura le temps de lire ces textes, vous, si jamais vous avez Lumen Gentium sous les yeux, où on vous passera peut-être des photocopies. Vous verrez que le Concile a voulu à tout prix fonder l'Église, non pas sur l'histoire, mais sur le mystère trinitaire. Autrement dit, je ne peux pas comprendre ce qu'est l'Église uniquement à travers une succession historique. En remontant à un premier... qui est lui le Christ, et puis d'autres personnes qui lui succèdent, et puis qui rassemblent plus ou moins la terre entière. Et vous voyez, l'interprétation allait de toutes les nations, baptisée. Et puis, dire c'est ça l'Église, vous voyez, une sorte de truc un peu, une multinationale qui essaie de s'organiser. On en a combien? On fait des statistiques, puis on compte. Et puis voilà, l'Église c'est ça. Vous voyez, c'est important de comprendre que la première compréhension de l'Église, je l'aurai du mystère de la Très Sainte Trinité. Je ne l'aurai pas par ce qu'on appelle la succession apostolique. Je ne l'aurai pas par l'étude de l'autorité dans la communauté humaine qu'on appelle l'Église. Autrement dit, il faut un chef, et ce chef, il est là. Alors, vous voyez, pour vous dire que c'est tellement ancré, c'est bon, vous voyez, c'est la raison qui conduit à ce qu'on appelle le cléricalisme. Vous voyez, ce qu'on voit, oui, le clerc, c'est celui qui domine. Et puis, qu'est-ce qu'il a à faire, le laïc? Ben, il a à obéir, il a à écouter. Vous entendez? Alors, vous voyez, à partir de ce moment-là, on a un regard sur, un petit peu un regard d'opposition. Alors, pour vous montrer que c'est quelque chose de très présent, je voudrais vous citer un catéchisme. Hein, c'est catéchisme du diocèse de Chambéry, de 1841. Alors, je suis allé chercher ça parce que je trouve que c'est assez amusant. Vous savez, catéchisme, question-réponse. Qu'est-ce que l'Église? Écoutez la réponse. L'Église, comme toute société, est composée de ceux qui commandent et de ceux qui obéissent. Diocèse de Chambéry, 1841. Alors là, ça ne va pas nous faire rire parce que là, je vais vous citer une lettre à l'archevêque de Paris de Léon XIII, écrite en 1885, et qui dit la chose suivante. Écoutez bien. Au seul pasteur, il a été donné tout pouvoir d'enseigner, de juger, de diriger. Aux fidèles, il a été imposé le devoir de suivre leur enseignement, de se soumettre avec fidélité à leur jugement et de se laisser par eux gouverner, corriger, conduire au salut. C'est dans cette subordination et dépendance qu'est établi l'ordre et la vie de l'Église. Et là, c'est pas catéchisme de Chambéry, c'est une lettre de Léon XIII à l'archevêque de Paris en 1885. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une telle vision, elle est archaïque? Est-ce qu'une telle vision, elle est à rejeter? Il est clair qu'aujourd'hui, ça fait mauvais effet d'être celui qui commande. Et puis ça fait encore plus mauvais effet d'être celui qui obéit. Il faut être clair. Et donc à partir de ce moment-là, on veut rejeter un petit peu ce regard entre l'autorité et la dépendance face à cette autorité et l'obéissance. Et là, il y a un vrai problème. Et à partir du moment où on considère que l'autorité et l'obéissance, c'est une question révolue, qui aliène l'homme, il est évident que toute cette partie de l'Église, qu'est-ce qu'on va faire? On va la rejeter. Ça, c'est clair. Et autrement dit, alors là, vous allez comprendre ça à travers ce qu'on entend dans la presse. On entend dans la presse, mais les évêques sont dociles à Rome. Comment ça se fait? Bon, le cas Monseigneur Gaillot, on pourrait en parler. Souvent, j'entends dire, mais vous savez, ce prêtre, il est merveilleux, mais il sait tout. C'est vrai, même n'importe quoi, vous voyez, on peut avoir quelqu'un, même en face d'un médecin, qui est capable de tenir un discours de biologie moléculaire en disant que voilà le pourquoi, le comment, puis le médecin se dit, ah bon, ben très bien, il sait tout. Vous voyez, et de temps en temps, c'est vrai qu'on a cette impression que tout compte fait, ben c'est une image à rejeter. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on est loin d'être dans une situation d'acceptation de l'autorité. Alors, vous voyez, cette question, elle pose quoi? Elle pose une question d'abord profondément philosophique. Qu'est-ce que l'autorité? Et surtout, qu'est-ce que l'autorité au sein d'une communauté? Vous voyez, à partir du moment, alors là, il y a un glissement très important qui s'établit au XIVe, XVe siècle.
Excusez-moi.
Où on est passé à une autorité qui était au service d'un bien commun, à une autorité qui se prévalait de sa dignité. Alors, il y a quelque chose de systématique dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Vous savez, le magistère de l'Église...
Excusez-moi, je vais peut-être y arriver.
Oui, le magistère de l'Église, magistère, magistrat, autrement dit le maître, celui qui enseigne, signifie la fonction d'enseignement dans l'Église. Et cette fonction d'enseignement, très rapidement, elle a été conçue comme quelque chose qui permettait l'épanouissement de la foi. On voit ça à travers, et l'intelligibilité de la foi, on voit ça à travers les pères de l'Église et à travers les théologiens du XIIe et XIIIe siècle. Il y a un certain moment, on s'est dit, mais celui qui enseigne, il a aussi autorité, il a aussi pouvoir de coercition. Il travaille et il peut dire à quelqu'un, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste. Puis à partir du moment où on dit, ça c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, vous voyez, on oublie le service de la vérité et on rentre dans un service de censure, de coercition. Vous voyez, on présente l'index. Et à partir de ce moment-là, il est clair et évident que, au lieu d'être au service d'une vérité, on devient un instrument de censure. Alors, ça c'est vrai pour le magistère, mais c'est vrai très souvent pour toute responsabilité dans une communauté. Vous voyez, comment peut-on comprendre au sein d'une communauté une autorité qui est un service et non pas une autorité qui est un pouvoir? Autrement dit, une autorité qui comprend ce qu'est le bien commun et qui accepte, en fonction de ce bien commun, d'assumer ce qu'est la communauté, et non pas quelqu'un qui prend simplement l'honneur d'être à la tête de cette communauté en se disant, voilà, je suis ça, donc c'est moi le chef, et c'est moi qui, vous voyez, le petit tyran. Alors, c'est important de réfléchir sur ces questions. Vous voyez, alors, j'en vois certains sourire, mais il y a le même problème en famille, hein, par rapport aux enfants, par exemple. Il y a le même problème dans des associations, il y a le même problème avec des amis. Donc, vous voyez, ne pensons pas immédiatement, parce qu'on a tous des images, on se dit, tiens, mais mon curé, tiens, mais le père machin, et ainsi de suite. Oui, oui, mais aussi regardons-nous chacun. Bon. Vous voyez, comment je peux harmoniser ce regard avec un autre modèle? Alors oui, vous allez voir, hein, je vais vous présenter quatre manières de regarder l'Église, et dans ces quatre manières, il y a toujours quelque chose de juste. Mais comment peut-on harmoniser ces quatre regards sur l'Église? Le deuxième modèle, j'appellerais ça un modèle dualiste. Alors celui-ci aussi est très présent. Et commence par la distinction, l'Église c'est quoi? Les clercs et les laïcs. D'un côté les clercs, de l'autre côté les laïcs. D'un côté ceux qui gouvernent, de l'autre côté ceux qui sont gouvernés. D'un côté ceux qui enseignent, ceux qui sont enseignés. D'un côté ceux qui célèbrent, non, et non pas ceux qui sont célébrés, mais ceux qui assistent à la célébration. Et alors cette dimension dualiste, hein, on a l'habitude, et c'est vrai que c'est une réalité, d'un côté il y a les clercs, de l'autre côté il y a les laïcs, c'est un fait. D'un côté il y a celui qui enseigne et celui qui est enseigné, il y a celui qui célèbre et celui qui est participant. Mais à partir de ce moment-là, on va introduire une dualité qui est beaucoup plus profonde et à mon avis qui est beaucoup plus négative pour la vie de l'Église. C'est qu'on va dire aux prêtres, l'Église et le spirituel, aux laïcs, le monde et le temporel. Alors là, ça c'est très 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 présent. Et d'ailleurs, ça s'appuie sur certains textes. Hein. Si vous lisez Gaudium et Spes, numéro 43, si vous lisez Lumen Gentium, je crois que c'est le numéro 18, mais on verra ça précisément cet après-midi, on voit bien qu'il y a un domaine réservé aux laïcs, et ce domaine réservé aux laïcs, c'est quoi? Ben, c'est le monde. Tandis que le prêtre, lui, c'est le spirituel. Et on va dire, d'un côté il y a les spécialistes de Dieu, et de l'autre côté il y a les spécialistes du monde. Chacun ses compétences, ne confondons pas, et c'est un petit peu ça l'Église. Autrement dit, l'Église, c'est l'unité de gens qui sont déjà au ciel, puis des gens qui sont vraiment embourbés dans la terre. On fait la même chose aussi avec les religieux. Les religieux, c'est eux c'est quoi? C'est les conseils évangéliques. Les prêtres, c'est quoi? C'est le curé, c'est le domaine pastoral. Oui, et puis on a chacun sa petite spécificité. Le missionnaire, c'est la mission. Le théologien, c'est sa théologie. Puis, à force de spécificité, on arrive à séparer les choses et oublier qu'il y a un fondement commun. Il y a un fondement commun entre moi qui suis prêtre et entre un de mes paroissiens. Il y a un fondement commun. Ce fondement commun, quel est-il? Ben, on est tous les deux enfants de Dieu. Donc, vous voyez, il y a peut-être une réflexion plus fondamentale, c'est de voir au-delà de ces dualités, comment je peux comprendre ce qu'il y a de commun. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les pères du Concile, hein, dans Lumen Gentium, ont à tout prix voulu éviter cette dualité. Et alors, pour ça, je voudrais vous citer Lumen Gentium numéro 31, par rapport au sujet de la vocation des laïcs. Il est dit, Ils exercent pour leur part, ce qui est très intéressant, ce qui est très important. Le prêtre l'exercera pour sa part, le laïc pour sa part aussi, mais chacun l'exerce pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Autrement dit, vous voyez, il y a une modalité différente entre le clerc, le laïc, le religieux, le curé, le missionnaire, le théologien. C'est vrai qu'il y a une modalité différente. Mais cependant, chacun avec sa part particulière participe à la mission qui est celle du peuple chrétien. Combien ça c'est important? Alors on reviendra sur, vous voyez, ce regard que Lumen Gentium essaie d'ouvrir à l'ecclésiologie. Cependant, vous voyez, quelle est la part propre du laïc? Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est tellement présent, on y reviendra à nombreuses reprises, mais je voudrais vous citer Lumen Gentium, toujours numéro 31, et qui parle du caractère propre du laïc. Il dit le caractère séculier et le caractère propre et particulier du laïc. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Voyez, il y a une mission propre, mais cette mission propre, elle s'appuie sur un fondement commun. Ce fondement commun, c'est que l'ensemble du peuple de Dieu est invité à une mission. La question, c'est comment peut-on définir, comment peut-on présenter ce qu'est cette mission. Alors ça, ce sera une partie de notre travail. Mais il est important de voir que, voyez, quand on parle de l'Église, on n'en parle pas simplement d'un côté, il y a telle personne, de l'autre côté, il y en a une autre, le clerc, le laïc. Quand on parle de l'Église, c'est on parle d'un corps qui a une certaine réalité. Alors, il est clair que l'image la plus riche qui nous permettra de comprendre le mystère de l'Église, c'est l'image du corps. Donc ça, le père Marie-Dominique le développera demain et après-demain. Mais il est important de voir que, voyez, trop souvent, le regard dualiste que l'on a sur l'Église est un regard qui, au bout d'un certain temps, déresponsabilise aussi bien le prêtre que le laïc. Vous voyez pourquoi? Parce que à partir du moment où je suis dans un créneau particulier, vous voyez, moi combien de fois j'ai entendu, mais vous comprenez, moi je suis dans le monde, les réalités du travail, moi je suis chef d'entreprise, je peux pas me permettre, l'évangile c'est bien beau, je suis d'accord parce que ça me remplit de conviction, mais dès que je pose un acte responsable, hors de question que je vive de l'évangile. Vous voyez combien il est facile, à partir de cette dualité, de dire aussi de la part du prêtre, mais moi toutes ces réalités terrestres, ça ne m'intéresse pas. Et on fait du spirituel, de quelque chose qui nous retire de la réalité humaine. Alors, troisième modèle, alors qui est le modèle actuellement qui est le plus en vogue, parce que vous comprenez, hein, le modèle de la pyramide, on essaie de le casser. Le modèle dualiste, aujourd'hui, on essaie de le casser. Dans les mots, parce que l'éclair dans la réalité, c'est bien ancré. Mais alors là, le modèle qui a le plus pignon sur rue, j'appellerais ça le modèle de communion. Alors là, l'Église, c'est une communion. On entend ça, d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, une conférence épiscopale a sorti un document s'intitulant « L'Église communion ». Et souvent, le problème, c'est que cette Église communion, on dit, voilà, c'est la théologie du Saint-Concile pastoral de Vatican II. Et l'Église communion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout compte fait, c'est la notion globale du peuple de Dieu. C'est ça, la communion, c'est une sorte de notion globale où on est tous ensemble. On s'aime tous, on est tous unis parce que le Seigneur nous aime, et puis on forme Église, et on fait l'Église. Ça, ces discours, on les entend assez souvent, puis on les lit aussi assez souvent. Alors, vous voyez, il est clair que la communion, c'est quelque chose d'essentiel. On le verra à travers l'étude qu'on fera de Lumen Gentium. Mais cependant, vous voyez, à partir de ce moment-là, on va confondre communion... Excusez-moi de la tautologie, mais on va confondre communion et confusion. Autrement dit, la communion, c'est on est tous égaux. On est tous égaux. Il est clair. Vous voyez, le principe de démocratie, c'est ça qui fait l'Église. Et alors là, va germer par système de petits champignons des noms très, très à la mode. On va vous parler de partenariat responsable. C'est ça l'Église. Faire Église, c'est avoir un partenariat responsable. On va vous parler de co-responsabilité. On va parler de démarche de collégialité, de démarche synodale, de démarche de fraternité. On va parler de décision démocratique. Et c'est ça qui fait qu'on vit ensemble. Parce que l'Église, c'est vivre ensemble. Alors, vous voyez, bon, tout ce langage qui actuellement est le plus utilisé, en tout cas dans une grande majorité des écrits sur l'Église, principalement des écrits pastoraux, et principalement de tout ce qu'on écrit sur le texte conciliaire Lumen Gentium, a un grand inconvénient, c'est que on ne sait plus très bien ce que c'est que la communion. Et là, il y a, me semble-t-il, un vrai souci de comprendre ce qu'est la communauté humaine. Est-ce que la communauté humaine, elle implique une structure? Ou est-ce que la communauté humaine, c'est simplement un ramassis de gens qui s'aiment, et parce qu'ils s'aiment, ils feront quelque chose de merveilleux? Vous voyez, et on peut se dire, c'est extraordinaire, il suffit de s'aimer, et en s'aimant, de toute façon, le Seigneur est avec nous, et puis, il nous guidera. C'est extraordinaire. Il ne faut pas de responsable, il ne faut surtout pas de responsable. Parce que dès qu'il y en a un, il n'y a plus de démocratie. Et dès qu'il y en a un, il y a automatiquement des blessures. C'est vrai. On est tous blessés par l'autorité. Ça commence en famille, pareil. Vous voyez, derrière ça, alors, il y a une autre question qui, à mon avis, est importante. Une question que je vais développer un tout petit peu plus, c'est la confusion entre ce qu'on appelle la démocratie et le sensus fidei. Alors, je vous explique rapidement ce que c'est que le sensus fidei. Le sensus fidei, traduction, le sens de la foi, c'est tout simplement du fait que je sois uni par une communion avec le Christ, dans une communion au Christ, et bien tout ce que me dit l'Église correspond aussi à la façon dont je vis du Christ. Il est clair qu'il n'y a pas le Christ de l'Église avec son langage officiel et en même temps ma propre vie spirituelle, ma propre vie de foi. Et plus je développe ma vie de foi, plus j'ai le sens de la foi. Plus j'ai une vie spirituelle, plus j'ai le sens de la foi. Ça, c'est évident. Et à partir de ce moment-là, oui, un petit exemple qui m'a énormément marqué. Un jour, j'allais visiter une grand-mère qui est extraordinaire, qui passait son temps en prière. À chaque fois que je la voyais, elle faisait tourner son chapelet. Vraiment une sainte femme. Et non, pas parce qu'elle faisait tourner son chapelet, rassurez-vous. Non, rassurez-vous, parce que c'était vraiment la vieillesse donnée à Dieu. C'est ce qu'il y a sûrement de plus beau à voir. Bon. Et alors, chose intéressante, c'est que elle me dit, mais alors écoutez, vous savez, alors l'homélie de dimanche, alors le père, il a parlé du mystère de la Trinité, mais oh là là, ça m'a gêné parce que on avait l'impression que Dieu, il devenait trois. Alors je lui ai demandé un peu, mais expliquez-moi. Alors le père qui avait prêché, il n'avait rien trouvé de mieux que de prendre comme image la très sainte Trinité et la famille. Alors c'est vrai que c'est une image, mais à partir du moment où on insiste, en fin de compte, oui, l'unité, elle est purement morale, elle est purement communautaire, mais c'est plus une unité de nature. Et c'est vrai que dans l'ordre de la foi, le message n'est pas juste. Mais cette grand-mère qui n'a jamais fait d'études de théologie, elle me dit, mais ah vraiment, cette homélie, il y a quelque chose de pas juste. Ça, c'est ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi. Et chacun l'exprime, hein, on sent bien qu'on a une vraie vie chrétienne, autrement dit, une vie de prière, nourri des sacrements, nourri de l'évangile, on voit bien que de temps en temps, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Même si on ne peut pas les expliquer, ces choses, ça ne passe pas. Et donc, vous voyez, toute la tradition a souligné le fait que l'enseignement de l'Église est reçu à travers le sens de la foi. Mais la difficulté, c'est que quand on est dans une communauté qui est chrétienne, quand on est dans un pays chrétien, ça ne pose pas de problème. Le sens de la foi, mais c'est quelque chose de normal. Mais quand on est dans une communauté qui n'est plus du tout chrétienne, ce qui est le cas actuellement en France, on vous dit que Jésus, il n'était pas vraiment Dieu. Puis on vous dit, vous savez, la maternité de Marie, oui, c'est une maternité normale. On vous dit, oui, mais la résurrection, vous comprenez, c'est un phénomène cosmique. On vous explique que le rocher dans le désert, en fin de compte, il y avait un tout petit trou, il y avait un trou dans la roche, et puis il y avait de l'eau dans la roche, il suffisait de taper, et puis paf, il y a eu trois gouttes qui sont tombées. On vous expliquait qu'il y a eu un phénomène particulier pour que la mer rouge s'ouvre. Et on va vous expliquer les quantités de choses, puis on va vous dire, mais comprenez, tout ça, c'est... Et puis ça rentre, puis tout le monde dit, mais oui, tout compte fait, c'est vrai ça. Mais pourquoi on a encore un homme en blanc qui nous dit que le Christ est ressuscité? Comment ça se fait, ça? Pourquoi on a encore un homme en blanc qui nous dit, mais Dieu est amour? Vous voyez, à partir de ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle le regard critique, la raison qui se développe et qui se développe dans le sens contraire de la foi. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le sens de la foi, trop souvent. Autrement dit, vous voyez, on va dire, bon, 60... alors, il y avait un article dans un journal qui montrait qu'à peu près 70% des pratiquants ne croyaient pas en la résurrection, quelque chose comme ça. Donc, concrètement, la résurrection, ça n'existe pas. Et on fonctionne comme ça par mode de sondage. Hein. Combien de personnes sont pour la démission de... Bon, vous voyez, non, c'est... non, mais je crois que c'est important de voir que, vous voyez, trop souvent, on confond ce qu'on appelle le sensus fidei avec le système des sondages. Vous voyez, et à partir du moment où on n'est plus dans un lieu où la foi est vécue, où la communion au Christ est effective dans le cœur des gens, ben à partir de ce moment-là, quel est le repère? Quel repère? Vivre ensemble. Mais vivre ensemble, sur quoi? Là encore, on oublie une chose, c'est que, premièrement, l'Église est un mystère. Et ce mystère, il s'enracine dans la très sainte Trinité. Si je ne comprends pas ça, eh ben, fondamentalement, l'Église, je l'humanise. L'Église, je vais en faire une sorte de, vous voyez, de communauté où il n'y ait pas d'accrochage. Alors là, vous avez des textes très beaux dans l'encyclique de Jean-Paul II sur la splendeur de la vérité. Où justement, il situe ça non pas simplement au point de vue de la communauté, mais dans un point de vue beaucoup plus dangereux, parce que c'est beaucoup plus subtil, au point de vue de la vérité et au point de vue du bien. C'est ce qu'on appelle le pluralisme. Vous voyez la dimension, le pluralisme. Il faut être pluriel, vous savez, ne soyez pas... hier, je déjeunais avec un prêtre et on parlait du livre du père Martelet sur « Libre réponse à un scandale ». Alors je lui dis, mais écoutez, moi la seule chose qui me gêne, c'est voilà, telle, telle ou telle chose. Puis il me dit, mais soyez pluriel, mon père, soyez pluriel. Ah oui, en étant pluriel, c'est vrai, il n'y a plus la foi. Donc on peut être pluriel, c'est vrai. C'est vrai, on peut être pluriel. Vous voyez, mais ça, on l'entend constamment. Sinon, bon, sur d'autres domaines, des domaines plus brûlants, sur le domaine de l'éthique. Ne parlons pas de ça, parce que ça ne sera pas compris, donc soyons pluriels. Vous voyez, et je crois que... Là, à mon avis, il y a une vraie question derrière ça. Alors, cette question cache une autre qui, à mon avis, est encore plus grosse. C'est une question pastorale. Parce que, vous voyez, cette interprétation de Lumen Gentium comme interprétation d'une église communion, elle vient d'un fait très simple. C'est un problème pastoral qui est un problème du nombre des prêtres. Il ne faut pas se cacher les choses. C'est concrètement, aujourd'hui... Ben oui, les prêtres, ça diminue. C'est curieux, mais c'est voilà. Il y a d'autres choses qui s'agrandissent, dans certains endroits s'agrandissent, mais en tout cas en France, ça diminue à une grande vitesse. Et donc on se dit, mais comment on peut faire concrètement pour s'occuper d'un territoire alors qu'on peut plus décemment assumer tout. Donc là, on va inventer des choses qui vont être très intéressantes. On va justifier. Et ça, croyez bien que c'est très très présent, on va justifier à travers un discours ben, une liquidation financière. On liquide actuellement l'Église. Il faut savoir... Vous voyez, actuellement, au point de vue pastoral, on est dans un système de liquidation. La liquidation, elle est très simple. Vous avez un territoire géographique sur lequel, il y a 10 ans, il y avait 300 prêtres. Aujourd'hui, il y en a 100. Et dans 10 ans, il y en aura 50. Donc voilà, autrement dit, à partir de ce moment-là, trouvons quelque chose qui va permettre d'assumer le territoire. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler, vous voyez, les équipes d'animation. Encore mieux, les équipes pastorales d'animation. Vous voyez, toute cette sorte d'organigramme. Et puis, on va essayer de structurer un discours à travers un organigramme. Alors que le discours de l'Église, il ne se prend pas d'un organigramme, il se prend de la révélation. Autrement dit, il se prend, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est le point de vue central, mais sous le regard de la très sainte Trinité, comme le fait le Concile Vatican II. Alors, c'est vrai que la communion... entre les hommes est indispensable. Ça, c'est évident. Mais comprenons que cette communion, elle se vit dans la lumière de Dieu. Et seule l'intelligibilité, seule à travers cette communion au mystère de Dieu, je pourrais découvrir l'intelligibilité du mystère de l'Église. Vous voyez ? Et non pas simplement dans une dimension structurelle. Parce que cette dimension structurelle, elle va donner quoi ? Oui, elle va porter des fruits. On ne parlera plus d'aumônier, on parlera d'aumônerie. On ne parlera plus de catéchistes, on parlera de groupes de catéchèses. On parlera plus de, vous voyez, de curés. On parlera d'équipe d'animation pastorale ou d'équipe pastorale. On parlera plus de réunion de prêtres. Mais on parlera de... Ah oui, l'expression qui est très belle. On parlera de conseils diversifiés. Et alors c'est vrai parce que c'est un problème très simple. Hein. C'est sur un territoire, s'il y a les trois quarts des membres qui sont plus là, il faut trouver d'autres personnes pour travailler. Ça c'est évident. Mais le danger c'est de partir de là pour réfléchir sur l'Église. Parce que vous voyez, à partir de ce moment-là, le point de départ d'une réflexion sur l'Église c'est les relations humaines. Parce que c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de relations humaines s'il n'y a pas de communion. Il ne peut pas y avoir de relations humaines s'il n'y a pas de pardon. Ça c'est évident. Mais est-ce que l'Église dans son point de départ c'est le rassemblement des hommes? Ou est-ce que l'Église, dans son point de départ, c'est ce que manifeste la Révélation, c'est-à-dire le mystère de la très sainte Trinité qui réalise l'Église comme l'instrument du salut? Ce qui est quand même très très différent comme regard. Alors, il y a un quatrième modèle qui est aussi très intéressant. J'appellerai ça le modèle individuel. Alors celui-là, il est énormément prisé. C'est-à-dire l'Église, c'est quoi? C'est une sorte de supermarché dans lequel on va faire ses courses, dans lequel on trouve tout. Alors chez Frère Saint-Jean, on sait qu'on trouve ça. Aux Béatitudes, on sait qu'on trouve ça. À l'Emmanuel, on sait qu'on trouve ça. Dans une paroisse, tiens, on sait qu'on trouve ça. Auprès de ce prêtre, je sais que je trouverai ça. Vous voyez? Et on est dans une situation où on se dit, mais oui, tout compte fait, l'Église, c'est pour mon bien spirituel. Autrement dit, c'est une banque de données dans laquelle on va se servir. Et combien est présent ce regard sur l'Église? Combien, en tout cas, même si on ne le dit pas, combien c'est... Vous voyez, j'ai la chance d'avoir une charge curiale. Eh bien, je vous assure que c'est un peu décapant de voir la façon dont les gens regardent la communauté chrétienne. C'est une sorte de truc où on va se servir. Et à la rigueur, on mettrait, non, j'exagère, mais oui, on mettrait un distributeur d'Eucharistie à l'entrée de l'église. Ils appuieraient sur le bouton en tirant la langue, paf, ça y est, c'est fait, on s'en va. Vous voyez, non, mais j'exagère, mais pour vous faire réfléchir, là, je parle principalement aux frères qui connaissent bien saint Thomas et qui connaissent sûrement très bien le traité de l'Eucharistie chez saint Thomas. Vous voyez, la façon dont on vit l'Eucharistie, c'est bien souvent, je vais à la messe pour mon bien personnel. C'est vrai, parce que qu'est-ce qui se passe à la messe? Je vais rencontrer le Christ. Et ma rencontre du Christ fait grandir mon intériorité, fait grandir ma vie de prière, fait grandir ma compréhension de l'Évangile. Autrement dit, ma rencontre du Christ, elle est là pour ma richesse. Vous voyez, et ma richesse spirituelle, ce qui est très très noble. Hein, ce qui est très noble. Parce que quand il n'y a pas ça, on s'ennuie. Il faut reconnaître. Ou sinon, s'il n'y a pas ça, on trouve autre chose. Alors des chants, on aime chanter, donc on va faire des trucs. Vous voyez, de la paraliturgie, des choses belles et tout. Donc on va aller dans un lieu, parce que si le spirituel c'est trop dur, on va aller dans un lieu où on peut voir de l'art. Alors on entendra chanter, oh c'est extraordinaire. Alors selon les goûts, alors que ce soit plus vivant ou non. Vous voyez, différents goûts. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez saint Thomas sur le traité de l'Eucharistie, saint Thomas dit une chose étonnante, c'est que l'Eucharistie, c'est la constitution du corps ecclésial. C'est pas d'abord la constitution de ma structure personnelle. C'est pas ça l'Eucharistie. Vous voyez, l'Eucharistie n'est pas d'abord, alors ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, hein, un bien individuel et spirituel. On regardera la façon dont l'encyclique sur le corps mystique parle de cette réalité de l'Eucharistie. L'Eucharistie constitue l'Église. Mais non pas une Église d'individualité où chacun se nourrit en disant « Seigneur, tu es bon, je te sens, c'est merveilleux. » Mais une Église qui est constituée comme corps. Et on le verra, je pense que le Père le soulignera, à travers le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, ce corps, par l'Esprit, il a une multiplicité de charisme et de ministère. Mais c'est ce corps. Et ce corps, il est constitué par quoi? Mais par l'Eucharistie. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est dans ce climat individuel, on considère simplement l'Église, c'est que je vive une intensité spirituelle, que je fasse une expérience du spirituel. Et bien, on se rend compte qu'une véritable expérience du spirituel, c'est une expérience qui assume la totalité de ma personne humaine et pas simplement mon intériorité intériorisante. Parce qu'une intériorité intériorisante, ce n'est pas vraiment une intériorité parce qu'elle n'est pas vraiment humaine. voyez, d'où la difficulté de dire, mais en fin de compte, comment je peux aborder le mystère de l'Église, non pas simplement comme un self-service dans lequel je vais pouvoir récupérer tout ce qui m'intéresse, mais comme véritablement un corps qui est constitué par le Christ, parce que c'est le corps du Christ, lui il en est la tête, et en même temps un corps qui a une vie en respectant la multiplicité, comme le dit saint Paul, des charismes et des ministères. Donc voyez, alors j'arrête là sur les quatre modèles. Voyez, chacun de ces modèles ont quelque chose de juste. Le modèle individuel, il a cette justesse, et à mon avis très importante, qui est sûrement la justesse la plus fondamentale, c'est de croire que l'Église est un lieu de richesse spirituelle. Ça, c'est indispensable. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Vous voyez, le modèle pyramidal a aussi une très grande richesse, c'est de me montrer que, ben oui, mais l'Église en tant que corps, elle a une structure. Elle a une tête, elle a différents membres. Et chacun, selon l'esprit, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, participe à l'édification du corps. Donc vous voyez, le modèle de la pyramide est effectivement, a aussi quelque chose de juste. Le regard dualiste, ben c'est vrai, il faut comprendre que ben, quelqu'un a la part du prêtre, du presbyte, quelqu'un a la part du prophète, quelqu'un a la part du serviteur. Mais si jamais le serviteur veut devenir le presbyte, et si le presbyte veut... Vous voyez, chacun a sa part, et cela par l'esprit. Autrement dit, vous voyez, le regard dualiste sur l'Église manifeste que dans une unité, il y a la particularité de chacun. Et cette particularité de chacun, elle est suscitée par l'esprit, nous dit toujours saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et puis, le regard de communion, c'est évident, c'est que la charité qui m'unit à Dieu, elle m'unit aussi à mon frère. Donc vous voyez, l'essence même de la charité constitue une communauté. Et donc il est important de comprendre que, vous voyez, chacun de ces modèles ont quelque chose de juste, mais à partir du moment où je réduis l'Église à tel ou tel regard, à partir de ce moment-là, je la détruis. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu l'analogie, autrement dit, vous voyez, la finesse de l'intelligence qui comprend non pas les choses univoquement ou équivoquement, mais qui les comprend d'une façon analogique. Alors pour expliquer ça rapidement, vous voyez, comprendre les choses d'une façon univoque, c'est de dire, soit l'Église c'est ça, ou c'est ça. Ça ne peut pas être les deux. Voilà, ça ne peut pas être les deux. Quelqu'un qui la conçoit d'une façon équivoque, c'est d'un côté c'est ça, de l'autre côté c'est ça. Et puis quelqu'un qui la comprend d'une façon, entre guillemets, analogique, c'est quelqu'un qui comprend que l'Église implique une multiplicité de facettes, et cette multiplicité de facettes sont là chacune pour me manifester la richesse de son mystère. Alors, voilà, l'introduction est terminée. J'espère que vous avez à peu près compris, vous m'avez à peu près suivi. Vous voyez, maintenant, l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut remonter à la source de la foi pour faire une théologie de l'Église? Et la source de la foi, c'est clair, c'est d'abord l'Écriture. Alors c'est ce que je ferai tout à l'heure, un bref regard sur l'Écriture, et en même temps je regarderai rapidement la tradition, c'est-à-dire les grandes étapes dans l'histoire de l'Église, où une construction théologique a été posée au sujet de l'Église.
session de théologie, l'Église, sacrement du salut, par le Père Jean-Marie à Rimont, le 27 octobre 95, deuxième cours.
Alors, on va continuer notre réflexion. Je voudrais insister sur un point par rapport aux quatre modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est clair que chacun représente des aspects de l'Église que l'on retrouvera constamment. La question, c'est de pouvoir les ordonner, ces différents aspects. Alors, vous voyez ce que j'appelais le modèle en forme de pyramide ou les choses d'essence. C'est clair, on insiste sur la dimension hiérarchique. Il est clair que la hiérarchie, c'est une des composantes de l'Église. Mais si vous la mettez en premier lieu, bon, est-ce que véritablement vous offrez un vrai visage de l'Église ? La même chose, vous voyez, cette dimension de dualité, mais se pose la question des ministères et des charismes. Il est clair que dans l'Église, mais les ministères sont différents, les charismes sont différents. Mais si on met ça en premier lieu, bon, est-ce que effectivement on donne un vrai visage de l'Église ? Pour le troisième regard, vous voyez, sorte de communion. Bon, c'est vrai que la communauté doit vivre d'une communion, mais est-ce que c'est ça qui est premier ? Cependant, la communion est essentielle. Comme l'Église dispensatrice des biens spirituels, hein, donc individuellement, on a besoin de l'Église comme dispensatrice des biens spirituels. Mais cependant, et toute l'originalité du Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, ce sera d'ordonner tout ça et de nous donner une certaine intelligibilité du mystère de l'Église. Donc ça, on y viendra, je l'espère, cet après-midi. Alors maintenant, on va regarder rapidement l'Écriture. Allons à la source de la foi, et puis posons-nous la question, mais comment l'Écriture nous enseigne et nous parle de l'Église, tout simplement. Alors, pour ça, moi, je me cantonnerai à l'Ancien Testament. Je ferai un rapide regard sur le Nouveau Testament, mais le Père Marie-Dominique, lui, se concentrera sur les grandes analogies du Nouveau Testament sur l'Église. Et puis après, on essaiera de regarder un peu dans l'histoire de la pensée théologique, comment l'Église, la question de l'Église s'est posée. Alors, vous voyez, pourquoi regarder l'Ancien Testament et quelle est l'originalité particulière de l'Ancien Testament ? Alors là, je vous renvoie à l'Épître aux Galates. Et alors, je vous trouverai la référence parce que je ne sais plus très bien où je l'ai mise. Bon, je développe l'idée, après je vous retrouverai la référence, si vous voulez. L'idée, c'est la suivante, c'est saint Paul affirme que l'Israël de Dieu, c'est la communauté des croyants adhérents au Christ. Autrement dit, l'Église assume l'héritage d'Israël. Et ça, c'est important de le comprendre, vous voyez. L'Église n'est pas simplement constituée à partir de la venue du Christ, même si de fait, c'est le mystère de l'incarnation et de la rédemption qui est le point de départ de l'Église. L'Église est tout de même préfigurée à travers l'Ancien Testament. Et saint Paul insiste sur le fait que la nouvelle Jérusalem céleste, c'est l'Église. L'Israël de Dieu, c'est l'Église. L'Église comme assemblée, comme peuple réuni par Dieu. Alors, pour ça, rapidement, on va faire un petit peu de vocabulaire. Comme vous connaissez tous l'hébreu et le grec, ça ne posera pas de problème. La question très simple, c'est de voir déjà, il y a un petit signe au point de vue du vocabulaire qui est très intéressant. Vous avez l'expression hébreu, kahal, qui signifie un groupe, une communauté, une assemblée. Et cette expression a été traduite dans les Septante par deux mots différents. Alors les Septante, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Septante, c'est la Bible de la diaspora israélite. Alors je vous explique rapidement. Il y a une certaine diaspora dans le monde juif, et cette diaspora s'est concentrée autour du bassin méditerranéen, parce que c'était le lieu de culture et le lieu de vie de l'époque. Et ces gens-là ne parlaient plus l'hébreu. Ils ne parlaient plus l'hébreu parce qu'ils étaient dans la culture du temps, donc ils parlaient le grec. Et donc on a traduit l'écriture en grec. Et on appelle ça les Septante parce que Septante, du nombre 70, c'est pas les Suisses qui ont donné ça, mais c'est du fait 70, C'est-à-dire que on a la tradition, et c'est une tradition qui est très belle d'ailleurs, la tradition dit que 70 sages se sont enfermés pour traduire le texte hébreu en grec, et ça a donné le même texte, bien qu'il y ait 70 personnes. Donc on a dit ça, c'est extraordinaire, c'est inspiré, c'est extraordinaire. Donc on a appelé ça les Septante. Autrement dit, les Septante, c'est quoi ? C'est intéressant parce que c'est la façon dont le monde juif helléniste a compris l'Ancien Testament. Et avec un vocabulaire très différent. Et ce vocabulaire, donc, on est passé de l'hébreu à un seul mot avec deux mots. Et ces deux mots, c'est quoi ? C'est ecclésia, donc l'Église. Et puis, un autre mot, synagogue. Synagogue, la synagogue. Vous voyez, c'est très intéressant parce que on a gardé pour le christianisme le mot église, et on a appliqué le mot synagogue, et là on voit ça chez Saint Jean, on voit ça aussi dans les premiers écrits des pères apostoliques, voyez, la synagogue, le lieu de la communauté juive. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux ont la même racine, et cette racine, c'est quoi ? C'est un peuple réuni par Dieu. Vous voyez, c'est très important parce que l'intention, c'est Dieu qui réunit les hommes et pas simplement la constitution d'une communauté sociopolitique, comme le serait l'église des premiers chrétiens, l'église des judéo-chrétiens, l'église des juifs de la diaspora. Vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que l'insistance au point de vue du vocabulaire, c'est avant tout Dieu qui réunit un peuple. Alors, c'est important parce que ça nous montre bien la différence entre la dimension sociologique et la dimension théologique. Soit je regarde dans ce mot « ecclésia » une dimension sociologique, donc la particularité du christianisme, soit je le prends à sa racine et je regarde effectivement sa dimension théologique, et sa dimension théologique, c'est le rassemblement d'un peuple par Dieu. Alors, sa question de vocabulaire, je ne vais pas insister là-dessus, on ne fait pas de l'exégèse ensemble. Alors, ce qui est important, c'est de voir que, à partir de ce moment-là, l'Église, elle achève ce qui est préparé de longue date. Et ce qui est préparé de longue date, mais c'est quoi ? C'est le mystère de l'Alliance. Vous voyez, il est important de voir que la préfiguration de l'Église doit se prendre du côté de l'intention de Dieu, et non pas du côté de la réalisation. On pourrait faire une étude assez intéressante, quoique elle est très périphérique, en exégèse, par exemple, sur les communautés. On pourrait travailler sur les Sadducéens, on pourrait travailler sur les pharisiens, on pourrait travailler sur la communauté de Qumran, on pourrait travailler, sur les différentes communautés. On appellerait ça une étude sur l'Église. Ce n'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est très important de voir que l'étude sur l'Église doit me mettre en référence au plan de Dieu. Alors on le verra tout à l'heure, en regardant Lumen Gentium, c'est que la première chose qui me fait comprendre l'Église, c'est le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, quel est-il ? Alors là, je vous renvoie au livre de la Genèse, chapitre 12, que je vais vous lire rapidement. Vous inquiétez pas, tout le chapitre 12, rassurez-vous. Et simplement vous lire le verset 3. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi seront bénis tous les clans de la terre. Par toi seront bénis tous les clans de la terre. » Autrement dit, l'alliance fondamentale, elle se trouve là. Et connaissez ce texte, Genèse 12:3. C'est un texte important quant à ce qui touche l'alliance. Autrement dit, la révélation faite à Abraham a une signification pour tous les clans de la terre. Ça, c'est très important à comprendre. Vous voyez, du côté de l'intention de Dieu, même si cette intention s'inscrit dans un devenir, et donc ce devenir est pédagogique pour que l'homme puisse arriver à la découvrir dans sa totalité, au point de départ, vous avez déjà ce regard de Dieu sur « Je choisis Abraham pour tous les clans de la terre ». Et ça, c'est le point de départ de l'Église. Ça, c'est clair. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est récapituler l'ensemble de l'humanité, et toute l'histoire du salut nous manifeste comment cette récapitulation pourra se faire, et elle se fera. Alors ça, le Moyen-Âge, et particulièrement saint Thomas le mettra en lumière, c'est-à-dire elle se fera à travers le Christ qui est tête de l'Église, qui est dispensateur de toute la grâce. Alors, si vous voulez, c'est le premier donné qui me semble important et fondamental. Autrement dit, il n'y a pas de rupture du côté de l'intention de Dieu. Bien sûr, il y a rupture sociologique, c'est clair. Parce que la rupture sociologique, quand vous connaissez l'histoire sainte, c'est qu'une histoire de rupture. que ce soit la rupture de, vous voyez, les deux royaumes d'Israël, vous voyez, c'est-à-dire les tribus qui se constituent en deux royaumes, que ce soit la rupture de l'exil, que ce soit la rupture de l'occupation. Vous voyez, effectivement, la souveraineté sociologique d'Israël, bon, elle a quasiment jamais existé, sauf depuis quelques années, et on voit bien combien c'est fragile. Et il est important de voir que la continuité, c'est l'intention de Dieu qui va se manifester à travers l'histoire du salut. Alors, vous voyez, pour ça, je voudrais vous citer l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 4, où saint Paul nous dit, au sujet du peuple juif, « Ils sont israélites, à eux l'adoption filiale, la gloire, les dispositions de l'alliance, la législation, le culte, les promesses. » Ça, c'est au peuple juif. Et un petit peu plus loin au verset 29, du moins au chapitre 11, verset 29, il dit « Irrévocables, en effet, sont les dons et l'appel de Dieu. » Autrement dit, vous voyez, la reconnaissance de la communauté chrétienne par rapport au peuple d'Israël, c'est ceux qui détiennent la promesse. Et c'est ça qui va commencer à constituer l'Église. Vous voyez, c'est pas d'abord une communauté où on va se séparer d'eux, vous voyez, pour bien montrer notre particularité, mais c'est en recevant leur héritage, on arrive à découvrir la particularité qu'apporte le mystère du Christ. Vous voyez, j'insiste là-dessus pour comprendre que l'étude du Nouveau Testament a de fait quelque chose à nous dire. Alors, sachant ça, je vais prendre quelques repères. Hein. Je présuppose que vous connaissez l'Ancien Testament. Donc, excusez-moi, c'est sûrement une erreur, je le sais, mais sauf pour les frères et les sœurs, quoique. Mais je présuppose ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais prendre 3-4 points et pour un peu sonder ce que dit l'Ancien Testament comme préfiguration du mystère de l'Église. Alors, premier point, c'est, j'irai au chapitre 9 de la Genèse, l'alliance avec Noé. On connaît tous ça. J'insisterai sur une chose qui est importante, c'est d'abord l'analogie que l'on trouve, entre, du moins que saint Pierre fait dans sa première épître, au chapitre 3, verset 20, entre l'arche de Noé et l'Église. Pour saint Pierre, dans sa première épître, hein, je répète les références, chapitre 3, verset 20, l'arche de Noé, c'est l'Église. Alors, c'est intéressant, sous quel angle? En tant que c'est le lieu où sont les sauvés. Autrement dit, le lieu où les personnes, les animaux, peuvent acquérir le salut. Et donc, d'une certaine façon, vous voyez, le symbole du refuge, vous voyez, l'Église qui est le lieu du refuge pour le pécheur, l'Église qui est le lieu du salut. Et ça, Saint-Pierre insistera là-dessus. Bon, je vous laisse lire ces textes, hein, si vous avez le temps pendant ce week-end, donc prenez avec votre Bible un papier, un crayon, puis revenez à ces références, elles sont très importantes, mais je ne peux que les souligner. Alors, vous voyez, et qu'est-ce que nous dit ce passage? Ce passage nous dit que après avoir fait cela, ben, Dieu, il se mord les doigts. Il se mord les doigts. Et puis, il dit, bon, je résume, hein, je ne vais pas vous lire le texte, mais vous le ferez vous-même. Il dit, ben, tout compte fait, jamais plus je ne ferai ça. Jamais plus je ne ferai ça. Et autrement dit, il garantit, d'une certaine façon, pour toute l'humanité, sa miséricorde. Et ça, c'est important, parce que, vous voyez, on a une alliance qui est ouverte à toute l'humanité, parce que jamais plus je ne ferai ça. Et en même temps, c'est une alliance qui se fait dans la miséricorde de Dieu, parce que Dieu prend sur lui l'injustice humaine. Alors, ce thème, on le verra constamment dans l'Ancien Testament, que ce soit chez les prophètes, dans les livres sapientiaux, dans les psaumes, aussi, très particulièrement. Vous voyez, Dieu accepte de prendre sur lui, et bien c'est ça la miséricorde. Autrement dit, Dieu prend sur lui, et il prend l'injustice humaine. Autrement dit, vous voyez, l'alliance ne va pas se fonder sur la justice de Noé, parce qu'il se repent, il se rend compte qu'il a fondé l'alliance sur la justice de Noé, il dit, non, jamais plus je ne ferai ça, et l'alliance, à partir de ce moment-là, va se fonder sur la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est important, parce que, vous voyez, ça fait comprendre que la récapitulation de l'humanité, elle ne vient pas de la justice humaine. Elle ne vient pas de la valeur de l'homme. Elle vient de la gratuité de Dieu. Alors, attention, ça ne veut pas dire que l'homme est complètement catastrophique, c'est catastrophique. Non, non, non. Mais ça souligne que Dieu, gratuitement, récapitule l'humanité par amour et par miséricorde. Alors, on va rapidement... le lieu classique, hein, c'est Abraham. Et Abraham, alors, il y a une interprétation qui... Il y a une double interprétation de l'alliance avec Abraham. C'est bien sûr une alliance personnelle. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Mais il y a quelque chose de, qui est important de souligner. Saint Thomas le souligne particulièrement dans le traité de la loi nouvelle et de la loi ancienne. C'est la question de la circoncision. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, c'est la répercussion communautaire de l'alliance personnelle avec Abraham. Autrement dit, la circoncision est vue comme le signe de l'appartenance d'un peuple à Dieu. Alors, le prenons pas dans sa matérialité. Hein. Saint Thomas nous montre bien que c'est un signe. Donc, à partir du moment que la réalité signifiée est présente, le signe disparaît, ça c'est clair. Donc, elle signifie le mystère de la grâce en tant que le Christ est tête de l'humanité. Mais il est important de voir que l'alliance qui est a priori éminemment la plus personnelle, parce que c'est le point de départ, Abraham, quitte ton pays, et bien la répercussion, elle est aussi communautaire par la circoncision, qui est le signe de cette appartenance. Vous voyez, je crois que c'est important de souligner ça. Alors, il est clair, hein, là vous avez, principalement dans la mystique rhénane, vous avez des très très beaux ouvrages, entre autres Rusbrook, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Rusbrook qui est un auteur, bon, c'est pas le top, mais il a... c'est parce que ce n'est pas le plus connu des mystiques rhénans. Il a écrit un très très beau livre sur toute la symbolique du peuple d'Israël, et principalement toute la symbolique de la Pâque. Entre autres, il a des explications très importantes sur la question de la circoncision, comme quoi la circoncision était la préfiguration du mystère de l'Église. Alors c'est vrai, on ne voit pas immédiatement en quoi la circoncision préfigure le mystère de l'Église, mais de fait, si on comprend que la circoncision, c'est le signe de l'appartenance d'un peuple à Dieu, effectivement, là, on a une signification du mystère de l'Église. Mais ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la mystique rhénane, ils peuvent aller voir. Alors après, il y a un événement qui... Comment dire, qui est important, c'est de voir que cette alliance, eh ben, elle a capoté. C'est étonnant d'ailleurs. Hein. Bon, alors ça, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sainte, mais vous voyez, constamment, dans l'Ancien Testament, Dieu veut quelque chose, l'homme dit oui, puis 3 secondes après, il dit non. En gros, c'est un résumé synthétique de l'histoire du peuple d'Israël, c'est ça. L'histoire de l'Église, c'est ça. Et notre histoire personnelle aussi, c'est ça. Reconnaissons-le humblement. Donc, si vous voulez, je crois que c'est important de voir que la réponse de l'homme à cette alliance, et là les prophètes le soulignent énormément, Osée le souligne, Isaïe le souligne, c'est l'infidélité de l'homme. Et dans cette infidélité, concrètement, qu'est-ce qu'on peut construire? Et on voit bien qu'il y a une grande difficulté à la construction de cette communauté. Alors, on le verra après, comment dire, à la naissance de la royauté, dans vous savez un peu, quand je parle de royauté, d'exil, vous savez un petit peu ou vous êtes complètement perdu? Vous avez ce minimum de connaissances bibliques quand même. Parce que j'ai l'impression que tout le monde sourit, mais tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors, les questions-réponses porteront peut-être sur ces choses-là. Mais bon, et en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que ceux qui vont bénéficier de l'alliance, eh ben, d'une certaine façon, vont passer leur temps à la refuser. D'où la grande difficulté de constituer le peuple d'Israël comme peuple de Dieu. Et on en arrivera à la fin avec les petits prophètes, de ce qu'on appelle les petits prophètes. Ils sont au nombre de 12, hein, vous irez voir dans votre Bible, on appelle ça les petits prophètes. On arrive à la fin, on parle énormément de ce qu'on appelle le petit reste. Parce qu'on se rend compte que le peuple de Dieu, il ne peut pas être signifié par tout le monde, parce que à la rigueur, les 3/4, ça ne les intéresse pas. Vous voyez, et ce qui est important, c'est de voir que toute l'histoire de l'ancienne alliance va être de constituer une communauté qui soit signifiante pour l'ensemble des nations. Et la grande difficulté, c'est ça devait être de trouver, mais comment cette communauté va-t-elle être signifiante? Dès que Dieu aura donné un lieu de rayonnement, le peuple d'Israël aura souvent la tendance de l'étouffer. Que ce soit le temple, que ce soit les différentes institutions, le sacerdoce par exemple, que ce soit la royauté. Vous voyez, toutes ces réalités qui sont là pour signifier, vous voyez, cette promesse première dont je vous parlais au chapitre 12, verset 3 de la Genèse, pour toutes les races de la terre, et bien constamment ce sera une histoire d'échec. Alors, vous voyez, je voudrais en souligner, bon je ne vais pas souligner que les échecs, rassurez-vous, mais je voudrais en souligner un qui est très très important, c'est l'Exode. Alors, il faut savoir que dans l'Écriture, hein, il y a un lieu central, Exode 14. Vous connaissez tous ce chapitre par cœur. Exode 14, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Il est très important ce passage parce que constamment, tous les auteurs en font référence. Vous voyez, c'est le lieu de référence obligé, c'est le passage obligé dans la constitution d'Israël. Autrement dit, le Dieu de l'Alliance, l'Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, elle s'achève dans l'Exode. Et ça, c'est un thème très important. Et cet achèvement dans l'Exode, vous voyez, manifestera ce qu'on appelle l'Alliance du Sinaï. Autrement dit, Dieu qui vient tisser une alliance, non plus avec un père ou un autre, c'est-à-dire Abraham, Isaac ou Jacob, mais avec l'ensemble de la communauté, à travers un médiateur qui est Moïse, qui est le représentant de Dieu. Et ce qui est important, c'est de voir que, vous voyez, cette communauté, elle est constituée en premier lieu parce qu'elle est libérée de l'esclavage. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour comprendre un peu l'Église. Parce que ça, on l'oublie trop souvent. Vous voyez, mais l'Église, c'est une communauté de pécheurs sauvés. C'est ça, le peuple de Dieu. C'est pas une... Vous voyez, ce qu'on a vu avec les Albigeois, pensez à l'époque de Saint-Dominique, hein, les cathares. C'est extraordinaire, les cathares. C'est des gens, regardez-moi, je suis parfait. C'est extraordinaire. Quand on va à Albi, quand vous regardez cette cathédrale d'Albi, cette façade où il n'y a rien, c'est une sorte de... C'est parfait. Vous voyez, on a l'impression que, bien souvent, on fait partie de l'Église. Et à titre personnel, posons-nous la question. Hein. Je ne vous la pose pas individuellement, mais posons-nous là, à titre personnel. On fait partie de l'Église du fait de notre intégrité. C'est ça qui est étonnant. Vous vous souvenez le texte de saint Paul, hein, ce matin à la messe. Vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que la communauté est constituée par un acte de libération. Dieu vient libérer son peuple. Autrement dit, la conséquence immédiate, c'est que le peuple de Dieu, c'est un peuple racheté. Alors ça, c'est un thème... très présent dans l'Ancien Testament. C'est un thème qui sera repris par saint Paul, par saint Pierre, et dans toutes les épîtres qu'on dit catholiques. Et le corollaire de cela, c'est que cette libération, elle doit se faire dans une dépendance avec Dieu. Alors, là aussi, on a un caractère de cette communauté du peuple d'Israël. C'est que, vous voyez, le seul moyen de vivre de cette libération, c'est la confiance. Accepter qu'on traverse les eaux. Bon, accepter qu'on tourne en rond dans le désert 40 ans, alors qu'il aurait fallu, en autocar, faut à peu près 12 heures. Je plaisante. Mais vous voyez, c'est accepter que cette libération, elle se fasse en dépendance à l'égard de Dieu. Et là, je vous invite à relire le livre de l'Exode, où on voit concrètement, le peuple est dépendant, puis il se rend compte que la dépendance n'est pas très agréable, et donc le peuple essaie de se libérer de la dépendance à l'égard de Dieu. Alors on voit ça à travers la manne, on voit ça à travers la grande colère de Dieu dans le désert, hein, les eaux de Mériba. Les eaux de Mériba, vous me demandez un frère, il vous expliquera ce que c'est. On chante ça tous les matins, l'office. Psaume 90, vous irez voir. La même chose avec le veau d'or. Vous voyez, la même chose avec la peur de Dieu, la peur de rentrer sur la terre promise du fait de la présence des Philistins, si vous voulez. Il y a des quantités de lieux où, d'une certaine façon, cette communauté qui est libérée, elle dit, bon, ça y est, maintenant je suis libéré, mais tu me laisses tranquille. Je te laisse un petit peu ça, le jeu de la communauté israélienne. Et on voit bien combien il y a une lutte d'indépendance dans l'histoire d'Israël. Alors que Dieu, justement, veut faire rester Israël dans une véritable dépendance. Mais non pas une dépendance purement humaine, hein, mais la dépendance de la grâce. Alors si on transpose ça à l'Église, on a exactement le même problème. Vous voyez, dans l'Église, on a exactement la difficulté suivante, c'est de dire, mais comment peut-on concilier l'autonomie d'une communauté qui tient la route, et puis cette dépendance radicale par rapport à la grâce de Dieu? Autrement dit, si Dieu n'est pas là, on s'écroule tous. Et on croit que, et de toute façon, on s'écroule, de toute façon, constamment, mais en plus, on se dit qu'on ne s'écroule pas, si vous laissez. Ça fonctionne souvent comme ça, une communauté. Vous voyez, parce que, après, il y a la psychologie de la communauté, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un peu les communautés de base. On se trouve des gens qui sont aussi mauvais que nous, et ce qui est encore mieux, plus mauvais que nous. Comme ça, on se dit, tout compte fait, je ne suis pas si mal. Vous voyez, comme ça, c'est intéressant de voir nos liens dans une communauté, pour montrer que, tout compte fait, on ne dépend de personne. Et il y a une sorte de psychologie communautaire qui est assez intéressante, autrement dit. Soit on trouve des gens qui sont plus mauvais que nous, ça c'est le top, ou sinon, bon, au pire, on trouve des gens qui sont un peu comme nous, bon, vraiment, qui sont un peu plus haut, mais surtout pas trop, parce que là, c'est vraiment pénible. Et c'est intéressant, parce qu'à partir des failles, les gens se regroupent. Très intéressant, l'étude sociologique d'une communauté. À partir des failles, les gens se regroupent. Bon, on voit ça aussi dans le mariage. Alors voyez, bon, cette alliance du Sinaï, dépendance, voyez, une alliance dans la libération qui implique la dépendance de cette communauté à l'égard de Dieu, pour que cette communauté soit constituée. Alors, chose importante, c'est de voir que le terme de cette alliance, cette alliance du Sinaï, elle constitue une communauté dans un lieu géographique. Alors souvenez-vous, Ben Gourion, en 1940, oui, on disait un peuple sans terre, une terre sans peuple. Vous vous souvenez de cet adage de... Non, bon, c'est pas grave, vous irez voir dans vos livres d'histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le lieu géographique était le signe de l'unité. À tel point que pendant l'exil, le peuple d'Israël se disait, mais on n'existe plus. Parce qu'on n'a plus de lieu. Et chose importante, c'est que, vous voyez, quelle est la signification du lieu, quelle est la signification de la terre promise? Est-ce que c'est la localisation géographique? Ça, c'est une question qu'il faut se poser, parce que bien souvent, vous voyez, on pense l'Église en termes de lieu, on a quelque chose qui nous appartient là. Non, c'est la dépendance à l'égard de Dieu. Et combien ça, c'est difficile. Et toute l'histoire d'Israël, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament, nous montre constamment que le peuple juif veut s'établir dans un lieu. Et Dieu, ben, au bout d'un certain temps, va déloger. C'est-à-dire, ils n'auront même plus de lieu, si vous voulez. Il n'y aura même plus de temple. Vous vous rendez compte un peu? Et alors, pour, vous voyez les différents temples qu'on a cherchés, puis après, on se donne Jérusalem, puis après, tout va bien. Autrement dit, la réussite d'Israël, c'est que le lieu lui appartienne et que tout aille bien. Et à partir de ce moment-là, quand on a ces biens, imaginons dans l'Église, ça peut être quoi le lieu? Les biens spirituels, quand on les a? Les sacrements. On sait comment ça marche, il suffit de lire le rituel. Puis on les dit, puis ça marche. Quand on a des choses, on sait que ça marche, donc on n'a plus besoin de l'intervention divine. On n'a plus besoin, ça sert à... Vous voyez, ben, y a eu la même chose, vous voyez. Ça pour souligner que, à travers le lieu, la tentation d'Israël, c'est de se situer en pleine autonomie et d'oublier ce lieu. Alors que ce lieu devrait être le signe de l'unité, le lieu devient le signe de la séparation avec Dieu. Alors, vous voyez, ça c'est un terme très important. Pour les spécialistes, je vous renvoie à un livre qui, à mon avis, est essentiel pour cette compréhension, parce que c'est une question fondamentale dans l'Ancien Testament. C'est le Père Devaux, qui est un dominicain de l'École biblique de Jérusalem, qui a écrit « Les institutions d'Israël ». C'est 2 volumes, on a ça en bibliothèque. Je vous conseille vivement de les lire, parce que, pour moi, ça vous apprend un petit peu l'histoire sainte, donc ça fait pas de mal. Hein? Et puis en même temps, vous verrez, il y a des réflexions très importantes dessus. Je ne peux pas souligner ça, mais... sur la dimension du lieu et de la dimension des institutions. Et constamment, le peuple d'Israël a cherché à se dédouaner de Dieu, aussi bien dans son lieu que dans ses institutions. Et on voit bien une institution qui se dédouane de son origine, ben elle devient purement formelle. Vous voyez, un prêtre qui se dédouane de son lien personnel avec le Christ, ça peut arriver, ça. Ben oui, souvenez-vous le bouquin retentissant de l'été, là, Les fonctionnaires de Dieu. Alors... Il y a un autre passage que je voudrais souligner, c'est le passage de l'exil. Et surtout, toute la spiritualité qui est née pendant l'exil. Alors, vous voyez, principalement à travers les prophètes, qui ont voulu manifester l'éducation divine sur le peuple d'Israël. Et cette éducation, c'était... C'est l'exclamation du prophète, hein. Israël essaie de découvrir, bon, traduction français courant, hein. Israël essaie concrètement de découvrir que celui qui te fait, c'est Dieu, et c'est pas toi. Et toute la pédagogie de l'exil, c'est pour découvrir dans la pauvreté la plus grande, que c'est Dieu qui fait Israël. Que c'est Dieu qui fait la communauté du peuple, du peuple rassemblé par lui. C'est pas l'homme. Et si cette dépendance n'est pas effective, Eh bien, Dieu rappelle à l'ordre. Alors, ce serait intéressant dans l'histoire de l'Église, hein, puis peut-être aujourd'hui, hein, de comprendre dans la sagesse divine ce que l'on vit, quelle en est la raison. Mais par rapport à la pauvreté qu'on peut constater dans l'Église, en tout cas dans sa manifestation en France. Alors, voyez, à partir de là, vous avez des terminologies qui naissent. Alors, je vous cite Isaïe, chapitre 40, verset 11. Et ça, c'est un thème très présent. Autrement dit, Dieu conduit son troupeau. Dieu est le pasteur, le bon berger qui conduit son troupeau. Et là, vous avez une image de l'Église très importante. Vous voyez, le troupeau, il a sa signification qu'en fonction de son pasteur. Un troupeau sans pasteur, c'est plus un troupeau. Et alors, à partir de ce moment-là, naît une réalité qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'attente messianique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? L'attente messianique, c'est tout simplement, le peuple d'Israël, ben, il est en exil, il attend un libérateur. Comme il y a eu la libération d'Égypte, on attend la libération de Babylone pour retrouver le temple, pour retrouver la terre d'Israël. Et ce qui est important, c'est de voir que cette conception messianique, elle sera très proche... de l'image d'Isaïe. Autrement dit, le Messie, c'est celui qui va nous conduire. Autrement dit, celui qui va constituer la communauté en tant que peuple de Dieu. Et là, c'est très important parce que à partir de ce moment-là, le mystère de l'incarnation montre bien que par l'incarnation, nous avons le bon pasteur qui constitue le peuple sauvé. Vous voyez, important de comprendre que dès l'Ancien Testament, l'attente du Messie, c'était l'attente de celui qui nous conduit, de celui qui nous libère. Vous voyez, on passe d'une attitude de pauvreté à une attente qui devient positive, parce qu'on attend pour être constitué le libérateur. Ce libérateur, c'est Dieu. Ce libérateur, c'est tel ou tel, c'est David. C'est bien sûr le descendant de David et toute la symbolique de l'arbre de Jessé. Et comprendre que à partir de ce moment-là, l'unité de l'Église se situe dans une personne. Cette personne, c'est le Messie. Et donc, toute l'attente de la communauté, c'est l'attente du Messie. Bon, cette attente, elle est encore présente actuellement dans le peuple d'Israël. Et les prophètes, de souligner, bon, le dernier point sur l'Ancien Testament, pour ne pas vous noyer dans tout ça, parce que quand il y en a trop, on se dit, mais je ne connais rien, mais si, on connaît un petit peu quand même, mais on apprend. Vous voyez, le dernier aspect que je voudrais souligner, c'est ce qui est développé par les prophètes, c'est la dimension sponsale. Vous voyez, c'est que ce Messie, il correspond à l'époux qu'attend une épouse. Alors on voit ça dans le Cantique des Cantiques, on voit ça aussi présent chez Ézéchiel, chez Jérémie. Et l'intérêt, c'est de comprendre que fondamentalement, le peuple d'Israël a un berger, attend un berger. Mais avec ce berger, il a une relation privilégiée. Et cette relation privilégiée, c'est une relation sponsale. Donc vous voyez, on a... Bon, pour tracer rapidement les choses, on a une communauté constituée par Dieu, une communauté qui s'enracine dans la libération, Exode 14, et c'est-à-dire la libération du péché. Hein. La signification de l'Exode, c'est la liberté que Dieu vient apporter à l'homme, il n'est plus l'esclave. Et donc cette communauté qui se constitue en tant que libérée et dépendante à l'égard de Dieu. Et cette dépendance à l'égard de Dieu, elle va se manifester par une attente du peuple d'Israël à travers l'histoire du salut, à travers l'appauvrissement de l'exil, l'attente messianique. Et cette attente messianique, c'est l'attente du troupeau par rapport à son berger. Et cette relation du troupeau à son berger, ce n'est pas simplement une relation de chef ou de celui qui conduit, c'est aussi une relation personnelle puisqu'elle est sponsale. Donc vous voyez, là on a des thématiques qui sont très importantes. Alors je pense que le père Marie-Dominique soulignera tout ça et toutes ces significations des différentes images, mais je semblais important de la situer dans l'histoire de l'économie du salut, dans l'ensemble de l'économie du salut. Alors, après ça, bon, rapidement, le Nouveau Testament. Là, je vais l'aborder d'une façon plus technique que théologique, hein, pour vous donner quelques repères. Alors, je vous renvoie au chapitre 19, verset 32 des Actes des Apôtres, où est utilisée l'expression « ecclésia ». Et, bon, ecclésia, église, autrement dit, c'est l'assemblée d'une communauté réunie au nom du Christ. Vous Et cela, alors là, la référence, on la trouve dans l'Ancien Testament, au livre des Nombres, verset, chapitre 16, verset 3. Un peuple de Dieu rassemblé pour le culte. Autrement dit, vous voyez, c'est une communauté rassemblée en vue du culte, en vue de l'hommage rendu à Dieu. Alors, c'est important de comprendre qu'au point de départ, c'est avant tout ça l'Église. Alors, là-dessus, il y a des expressions qui sont, bon, qui sont très belles. Hein. Vous voyez, saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 28, ou l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 11, ou l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 2, bon, nous dit que l'Église, c'est l'Israël nouveau. Et les citations dont je parlais tout à l'heure, autrement dit, l'Église, mais c'est l'Israël de Dieu, c'est l'Israël nouveau. Alors, il y a une autre expression pour parler de la communauté qui est très importante. Et ça, on l'oublie trop souvent. Bon, très bien, première expression, ecclésia. Oui, mais ecclésia signifie rassemblement. Rassemblement de personnes convoquées par Dieu pour lui rendre un culte. Vous avez une autre expression qui, à mon avis, est très importante. C'est pour désigner la communauté chrétienne, on disait, attendez-vous bien, les saints. C'est quand même extraordinaire, ça. Oi agio. Voilà, en grec. Les saints. Autrement dit, la communauté des chrétiens, ben, chacun était saint. C'est extraordinaire. Là, on a à revoir un peu notre regard sur la sainteté. Et alors, et en premier lieu, ça désignait la communauté de Jérusalem. Vous voyez, on parlait, alors là vous irez voir, hein, je vous donne rapidement les conférences, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1, après chapitre 14, verset 34, et dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 9, et chapitre 22, verset 23. Si on a eu le temps de noter les chiffres. Bon. Et ce qui est un peu intéressant, c'est par extension, ça ne désignera plus que la communauté de Jérusalem, mais ça désignera toute la communauté des chrétiens. Et alors, la grande question, mais pourquoi saint? Pourquoi saint? Alors là, ça nous renvoie à une expression, l'élection. L'élection. Saint parce que élu par Dieu. Autrement dit, vous voyez, on les appelle les saints parce qu'ils sont choisis par Dieu. Et c'est ça qui fait le saint. Parce qu'il est choisi par Dieu. Et c'est pour ça que c'est une communauté de saints. Parce qu'ils sont choisis par Dieu. Oui, c'est non pas le club des forts, vous voyez, le club des cinq. C'est, oui, on a un club des forts, donc on a quelques saints, on les met en communauté, voilà l'Église. Non, c'est des individus, puis on voit le style. Hein, prenez saint Paul et Barnabé, je vous assure que ça devait être assez musclé comme discussion. Bon, prenez Jérôme et saint Augustin. Si jamais vous avez jamais lu la correspondance de saint Jérôme à l'égard de saint Augustin, lisez-la, vous verrez, c'est sûrement pas un motif de sainteté, et pas d'édification spirituelle non plus. Parce qu'il ne pouvait pas souffrir. Vous voyez, saint Jérôme, comparant saint Augustin à une poubelle, sur laquelle on devrait mettre un couvert, comme ça il se tairait. Je voulais, ça écrit noir sur blanc, en grec, donc on comprend moins, mais si vous voulez, bon, ça c'était sûrement plus poétique en grec, mais bon, si vous voulez, c'est clair, parce que et c'est pas une sorte de club de parfaits qui sont réunis, puis regardez-nous, on est l'Église. Mais on a cette... Vous voyez, là je souligne ça parce que, à mon avis, on a un faux regard sur l'Église dès le point de départ. Vous voyez, combien de fois j'entends dire, mais moi je peux pas affirmer ma foi parce que je la vis tellement mal. Alors moi je réponds, mais écoutez, si vous attendez de la vivre bien, mais écoutez, vous attendrez tout le temps. À moins que vous soyez... Un saint ermite ou ascète, où là vous serez le lieu d'une édification, vous édifierez les autres. On voit ça dans la vie commune, de temps en temps, il y en a qui édifient, d'autres, bon. Vous voyez, et c'est. Je crois que c'est important de voir que, vous voyez, on les appelle les saints, non pas du fait de ce qu'ils sont, mais du fait de ce qu'ils sont choisis par Dieu. Et là, je vous renvoie, là vous irez voir aussi, lisez ce petit verset, c'est au livre de l'Exode, chapitre 19, verset 6. Vous voyez, l'homme est ce qu'il est parce qu'il est choisi par Dieu. Et non pas, il est ce qu'il est par lui-même, mais du fait de Dieu. Alors vous comprenez, le peuple de l'Alliance, eh ben, c'est des gens qui sont tout simplement saints parce que ben, c'est les élus. Alors ça, c'est l'autre terme qui est très présent. on appellera les chrétiens les élus. Comme on appellera le juif l'élu, le peuple élu. Alors, ce n'est pas un signe de supériorité en disant « T'as vu, moi, il m'a pris, pas toi ?» Non, 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 non. C'est tout simplement le signe de la bonté de Dieu. Dieu choisit. Mais ce qui est très important, c'est de voir que ce choix, il ne porte pas sur tel ou tel homme. Ce choix, il porte sur l'ensemble de l'humanité. Alors, vous voyez, bon, rapidement pour... Vous voyez, soit l'expression, c'est soit le chrétien, c'est celui qui est élu ou celui qui est appelé. Alors, les références rapides, hein, Romains 8, 33 et Romains 1, 7. Là, pour ceux qui veulent aller voir. Et alors, à partir de ce moment-là, on passera de l'élu au peuple et on parlera de peuple de Dieu. Et, chose importante, on parlera aussi de peuple de saints. Là, je vous renvoie aussi dans l'épître à Tite, chapitre 2, verset 14, ou dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17, ou dans la première de saint Pierre, chapitre 2, verset 10. Bon, rassurez-vous, on va bientôt finir ce qui concerne les chiffres. Hein. Vous voyez, là, j'insiste là-dessus, c'est comprendre que cette élection, elle porte sur l'ensemble des hommes. Vous voyez, elle est catholique. Alors, on a, vous voyez, l'ouverture de Genèse 12, 3, que je vous citais tout à l'heure, hein, toutes les races de la terre. On le revoit dans de nombreux psaumes. Vous voyez, l'extension du royaume de Dieu à toute l'étendue de la terre. On le voit dans l'Évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Vous voyez, autrement dit, ce regard de Dieu qui ne tient pas compte simplement de telle ou telle personne, mais ce regard de Dieu qui englobe l'ensemble de l'humanité. Et là, vous avez un lieu très important, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 5. La comparaison entre Adam et le Christ. Le Christ, le nouvel Adam. Saint Bernard aura une très belle méditation en parlant du Christ nouvel Adam et de Marie nouvelle Ève. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'humanité est récapitulée dans le Christ. Comme elle était unie en Adam, elle est unie dans le Christ. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel ou d'un tel, en disant, moi je fais partie, vous savez, comme les témoins de Jéhovah nous le disent, vite, vite, adhérez, adhérez, parce que sinon il n'y a plus que trois places, parce que le quota va bientôt être rempli. Mais c'est du côté de la sagesse de Dieu, c'est regarder dans l'unité l'humanité. Alors, vous voyez, la regarder dans l'unité et dans la globalité de son devenir, ceux qui étaient avant et ceux qui viendront. Alors on verra, saint Thomas a de très belles expressions là-dessus, on essaiera d'en parler tout à l'heure. Oui, alors, pour ça, pour cette ouverture universelle, hein, je vous renvoie à l'Épître aux Éphésiens, ce très beau passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, 12 et 19, c'est un lieu qu'il faut souvent lire, qu'il faut méditer, parce que vous voyez, c'est autrement dit, c'est la découverte que le Christ n'exclut pas, que le païen, il est là, mais le Christ ne l'exclut pas. Et autrement dit, vous voyez, le peuple nouveau, le peuple de Dieu, ben, concerne aussi celui qu'on appelle le païen ou celui qu'on appelle le gentil, c'est-à-dire celui qui n'a pas reçu la révélation. Alors, vous avez une autre référence importante aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14. Vous voyez, je vous le cite, « Tous les peuples sont désormais pour Dieu un peuple nouveau. » Autrement dit, tous les peuples. Vous voyez, ça change beaucoup parce que on connaît tous la fameuse citation de Saint-Cyprien. Je pense que vous la connaissez tous, non? Écoutez, vous la connaissez, c'est évident. Hors de l'Église. Ah, voilà. Et alors, je voudrais vous la citer dans, dans le texte. Extra ecclesiam nulla salus. Ça veut dire que en dehors de l'Ecclésia, non pas, vous voyez, l'Église, mais en dehors du peuple, vous voyez, Kaal. Vous voyez pourquoi j'ai insisté sur la terminologie. C'est-à-dire, ce peuple dont Dieu est l'origine, et cette origine du côté de Dieu, c'est de récapituler l'ensemble de l'humanité. Donc, vous voyez, sorte de regard un peu restrictif de la pensée de Saint-Cyprien, qu'a fait, sur lequel les gens se sont beaucoup battus, principalement dans la contre-réforme, on oublie que l'origine de l'Église, c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Comme le montrera d'ailleurs dès le début de Lumen Gentium, le Concile Vatican II. Alors, il resterait à développer des analogies, bon, si vous voulez, vous pouvez les noter, qui nous parlent du mystère de l'Église, et souvent, la plus profonde, c'est l'image de Saint Paul, le corps du Christ, ça c'est clair. Vous avez l'autre image, vous avez l'image du temple, l'image de la vigne, l'image du royaume. Donc si vous voulez, toutes ces images, hein, je pense que le Père Marie-Dominique les développera. Donc je n'insiste pas, mais c'est vraiment là que se fait la théologie de l'Église, hein, c'est clair, c'est dans ces images. Tout ce que je vous ai dit, c'est préparatoire. Mais ça balaie la porte, mais maintenant il faut rentrer dedans. Alors, il y a une chose importante aussi, principalement dans les actes des apôtres. Vous voyez, l'Église aussi comme constitution humaine, ça aussi c'est important. Il faut pas. Alors on verra aussi, hein, Vatican II, toute l'histoire de la théologie de l'Église insistera sur ces deux aspects, dimension spirituelle, dimension visible. L'Église, c'est aussi une communauté constituée, visible, hiérarchisée. Alors là, il y a toute une lecture à faire du chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. Malheureusement, il faudrait y passer des heures et des heures, donc je préfère même pas rentrer dedans. Je voudrais simplement souligner quelques aspects. Mais le chapitre 12 de la première Épître aux Corinthiens est fondamental pour comprendre l'Église. Ça, c'est clair. C'est toute la pensée paulinienne de l'Église est présente dans ce chapitre. Et qu'est-ce que nous dit concrètement ce chapitre? Alors là, je vous le traduis, donc il faut bien le connaître, mais bon, je vous le traduis en deux mots. C'est que le mystère de l'Église, il s'actue dans le temps par l'Esprit Saint. Mais en résumé, le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, c'est ça. C'est que le mystère de l'Église, il s'actue dans le temps par l'Esprit Saint. Et c'est ça qui va constituer l'Église visible. Autrement dit, vous voyez, ce qu'on va appeler le pneuma, c'est le constituant de la communauté chrétienne, qui manifeste le mystère du Christ dans le temps. Et cela, c'est le reflet du mystère de la très sainte Trinité. Alors, on le reverra dans les papiers qu'on vous donnera cet après-midi, hein, le Concile le souligne en premier lieu, c'est ça l'Église. Mais par l'Esprit, elle se constitue visiblement. Et qu'est-ce que fait l'Esprit ? Ben, l'Esprit, il opère dans le cœur des croyants, et ça c'est la deuxième partie.